Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue là, c'est sérieux, dans les voies du scénarium sur le 101.5 de Radio G. Quoi dire si ce n'est que je suis encore heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans cette émission et j'espère que tout comme moi vous prenez plaisir à l'écouter autant au moins qu'on a pu passer de plaisir à la créer et à la construire. Ce soir on va partir toujours dans l'espace, on passera sur le dernier épisode de cette première partie de Alien, d'ailleurs une deuxième partie, vous verrez puisque du coup on a beau prévoir des scénarios courts, nos joueurs ont cette capacité assez phénoménale à être beaucoup plus longs sur des scènes qui sont normalement hyper simples à gérer. Mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu et c'est pour ça que le jeu de rôle c'est aussi important et fabuleux, c'est qu'on peut y passer beaucoup plus de temps qu'on voudrait à partir du moment où on a toute la liberté de faire ce qu'on en veut. C'est une intro franchement très très longue, mais ça c'est pas très très grave, puisque on a une heure à passer ensemble, et que des fois il faut que je meuble un petit peu. Hein. Non, je plaisante. Voilà, je préviens tout de suite, là il y aura deux semaines sans scénarium, puisqu'il y aura un petit hiatus pour nous permettre de préparer le début de l'année prochaine, puisqu'effectivement les enregistrements prennent du temps, le montage prend encore plus de temps, et comme j'ai toujours tendance à être un petit peu en retard, écoutez, avec tout ça qui se prépare, ça donne une pile de trucs en retard. Je vous propose d'écouter une petite interview dans un premier temps, une interview que j'ai réalisée au salon Octogone 2021 à Lyon début octobre, celle de Mathias Daval qui nous parlait de son jeu Logos qui a été publié aux éditions Les 12 Singes, un jeu dans un jeu et un jeu pour un jeu. Je vais vous laisser découvrir tout ça et puis on peut revenir un petit peu dessus juste après.
Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu en es venu au jeu de rôle ?
Alors, je m'appelle Mathias Daval et je suis venu au jeu de rôle, je dirais un peu en même temps que les jeux de société quand j'étais enfant, en fait. Alors, jeu de rôle un petit peu plus tard à l'adolescence, dans les années milieu des années 90. À un moment donné où c'était, sans dire que c'était l'âge d'or du jeu de rôle, mais c'est vrai que c'était une période assez faste. Avec les grands classiques de l'époque auxquels on a tous joué dans ma génération ça a été des grandes campagnes, parce qu'à l'époque on avait le temps, en fait, tout simplement on avait le temps de jouer, donc on faisait des grandes campagnes qui duraient plusieurs mois, que ce soit d'ADD, Warhammer, Ambre, etc. Et puis après il y a une pause, une longue pause jusqu'à, avec vraiment des parties très très parsemé, quoi, et puis jusqu'à récemment, en fait. Ça fait vraiment, je dirais, une petite dizaine d'années, que, au moins 8-10 ans que je m'y suis remis.
Et du coup, comment on arrive à un jeu comme Logos ? Quelle est la genèse du projet Logos, en fait ?
Bah, en fait, c'est un projet ancien, il a quasiment 18 ans, c'est un ami qui était à l'origine du concept. Où il avait inventé un concept très simple, en fait, de magie à base de cartes à jouer. C'était vraiment, il nous a présenté ça comme ça, et on a fait un test, on a adoré, puis c'est un peu resté en plan. Et des années plus tard, je me suis dit, quand même, je suis retombé, en fait, dessus, et je me suis dit, quand même, c'était un chouette projet, il faudrait en faire quelque chose. Et donc je me suis replongé avec mes deux compères, donc Cyril et Boris, qui sont les deux co-auteurs de Logos. On a commencé à redévelopper ça, à développer tout un background autour du système, à finaliser vraiment le système de jeu. Et puis il y a eu une rencontre avec les 12 singes il y a un peu plus de 2 ans, et ça nous a permis d'éditer le jeu Logos.
Et du coup, rentrons un petit peu plus dans la matière. C'est quoi Logos, en fait ?
Logos, en fait, je dirais que c'est un projet double. C'est à la fois un jeu de rôle en tant que tel, autonome, avec un univers, des règles, etc. Et en même temps, c'est une sorte de méta-système de magie qui peut être utilisable avec n'importe quel autre jeu de rôle. Donc c'est vraiment les deux. C'est un système très ouvert qui est basé sur ce qu'on appelle un magiverse, un omnivers. Donc c'est une infinité de mondes avec plein d'ambiances de jeux possibles. Et la particularité, c'est un jeu sur la magie et sur le langage. Et en fait, c'est un jeu qui postule qu'on peut altérer le réel par les mots. Comment ça se passe ? En fait, chaque joueur écrit des mots, donc des verbes, des noms, sur des cartes à jouer. Et ça va constituer, en fait, sa main magique, quoi, son pool magique, avec lequel on va constituer ce qu'on appelle des magiphrases, qui vont être, en fait, les sorts pour modifier la réalité. Et donc les joueurs incarnent ces magiciens qu'on appelle des verbes mages, qui ont acquis ce pouvoir d'altération du réel par le langage.
Utilisable dans d'autres jeux, mais son univers à lui-même, c'est quoi le concept ? Que vont jouer les joueurs, en fait, là-dedans ?
Alors, en fait, les joueurs, justement, vont être un peu en exploration de leur pouvoir, et ils vont, tout l'enjeu de Logos, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est précisément le Logos, en fait, que cette source de magie un peu mystérieuse. Et l'univers de Logos, donc, comme j'ai dit, c'était un multivers. On commence à une époque contemporaine sur Terre, et puis on va évoluer, traverser des mondes, explorer le Magiverse, essayer de comprendre les limites de ses pouvoirs, et on va se heurter à une faction adverse qui s'appelle la Main, qui est, elle, vraiment l'opposé, pour le coup, du logo, c'est-à-dire qui souhaite l'annihilation du langage et la destruction des verbes mages. Et donc ça, c'est l'adversaire principal pour les joueurs. Et on a conçu les scénarios de Logos comme une sorte d'initiation à Logos lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites le premier scénario qui est inclus dans le livre de base, vous allez rien savoir des règles. Et à la fin du scénario, vous aurez compris, en fait, qui vous êtes en tant que PJ, en tant que personnage joueur. Vous aurez compris que, bah oui, vous avez des pouvoirs magiques, que vous pouvez utiliser le langage pour pouvoir modifier la réalité. Et à partir de là, vous allez créer votre personnage assez classiquement, comme les autres jeux de rôle. Avoir des caractéristiques magiques, des caractéristiques physiques, enfin, qui sont très très simples. On a vraiment fait un système de jeu, pas du tout alambiqué, avec plein de tables de simulation, etc. C'est un système assez simple. Vraiment, le cœur repose sur la composition de phrases et l'utilisation des mots qu'on a. C'est vraiment le cœur du système.
Est-ce qu'on peut approfondir un peu cette mécanique? Comment elle fonctionne?
Alors en fait, donc on dispose de mots. Quand on commence une partie, quand on commence à jouer à Logos, on dispose de 7 mots. 5 mots tirés aléatoirement dans une table, de Magimo. Et 2 mots choisis par soi-même en fonction du background de son personnage. Des mots qui collent à ce qu'il est, sa personnalité, son histoire. Et à partir de ces mots de départ, on va pouvoir interagir dans les scénarios en lançant un sort, en l'énonçant. En fait, on annonce une intention. Donc on dit par exemple, je vais reprendre un exemple très caricatural de la boule de feu. Je veux envoyer une boule de feu. Donc je l'annonce au maître du jeu, qui dans Logos s'appelle le maître du verbe. Et une fois que j'ai énoncé mon intention, je vais poser mes cartes qui contiennent les mots que je veux utiliser et dire ma phrase à voix haute. Donc, idéalement, pour lancer une boule de feu, il faudrait que j'ai les mots lancer, boule et feu. Évidemment, en pratique, on n'aura pas toujours et même rarement les mots exacts dont on a besoin. Donc il va falloir composer avec les mots qu'on a, sans doute créer des situations peut-être d'ambiguïté de langage, être imprécis, etc. Et tout ça aura un effet en bonus, en malus. Ce qui aura un effet aussi, c'est l'adéquation entre la couleur de la carte ou le type de carte et le mot qui est dessus, puisque chaque carte a une couleur traditionnelle, un piqueur carreau trèfle, qui a une symbolique et donc qui a un impact aussi sur la phrase magique telle qu'on va la lancer. Et puis une fois qu'on a lancé sa phrase, il y a une résolution de l'effet par le maître de jeu qui va également dépendre de l'approximation de la phrase elle-même, mais aussi du contexte. Est-ce qu'on se trouve dans un monde dans lequel la magie est forte, dans lequel le logos est puissant ou pas? Est-ce que on réalise un sort individuel ou un sort collectif, car on a la possibilité de mélanger nos mots pour pouvoir faire une phrase en commun? Donc il y a plein de possibilités de jeux différents en fonction de sa façon d'aborder la magie, du monde dans lequel on est, du type de verbe mage qu'on joue.
Et comment ce système-là s'adapte à d'autres univers?
En fait, assez simplement, en remplaçant le système de magie. Soit il y a un système de magie existant, quelqu'un le remplace, tout simplement. Soit on ajoute un système de magie, qui est le nôtre, et on le plug, c'est vraiment la façon d'un plugin d'informatique. On le rajoute en intégrant simplement la raison pour laquelle, dans cet autre univers, qui peut être, je sais pas, celui de Pathfinder, celui de peu importe, pourquoi il y a le logos en fait? Qu'est-ce que serait le logos dans cet univers-là? Quelle force il représenterait? Et donc en fait, ça je dirais que c'est la communauté en fait, des joueurs qui le proposent. Donc on a vraiment ouvert ça à tous les joueurs de Logos. L'idée de pouvoir proposer chacun leur plugin pour tel ou tel jeu. Et de pouvoir comme ça l'adapter à d'autres modes de jeu.
Et ça, c'est des plugins qui vont être disponibles physiquement ou c'est.
Ça va être disponible en ligne. En ligne, on a le site sur lequel on trouve pas mal d'outils aussi, de générateurs, de scénarios, de fiches de perso, enfin il y a pas mal de petits outils pour Logos. Et un autre volet très important aussi dans le jeu, c'est qu'au fur et à mesure de sa progression, on va se spécialiser magiquement. Et c'est ce qui est un peu aussi tout le cœur du jeu, c'est sa façon propre en fait, d'utiliser la magie et donc le langage. Et il y a 13 spécialisations magiques qui vont complètement modifier sa façon de jouer. Donc pareil, pour donner un exemple, il y a une des voix qui s'appelle les brise-verbes, qui sont les destructeurs en fait, et eux ils vont carrément altérer leurs cartes physiquement, c'est-à-dire ils vont par exemple couper, brûler, plier une carte, donc un de leurs mots, pour amplifier l'effet de leur sort. Les poètes, eux, vont jouer par exemple sur les rimes, sur les homonymes, sur les jeux de mots, etc., etc. Donc c'est vraiment différentes façons en fonction de sa propre personnalité de joueur. On va pouvoir choisir une voix et décliner comme ça les différentes façons d'utiliser sa magie.
Et au niveau de la gamme en elle-même, qu'est-ce qu'elle contient actuellement?
Alors la gamme, donc elle est toute récente puisqu'elle vient de sortir là cette semaine chez les 12 singes. Donc pour le moment il y a le livre de base qui contient un scénario d'initiation. Il y a la première campagne donc qui s'appelle Demiurgia, qui est vraiment une campagne aussi d'initiation, dans le sens où elle, c'est elle qui introduit justement les voies, donc les spécialités magiques, et qui va commencer à permettre de commencer à explorer le Magiverse. Il y a l'écran qui va avec le supplément, et puis aussi, et puis il y a le reste qui est entre guillemets optionnel mais bien utile, c'est-à-dire des cartes customisées, notamment le deck du maître qui contient des mots préinscrits, donc très pratique pour pouvoir gérer des tirages quand on est maître de jeu. Également les fiches de personnages, et puis une fiche de pour le losange étant en fait les caractéristiques magiques d'un personnage.
Ok. Et le futur de la gamme ?
Alors le futur, déjà on va voir comment ça se passe, on va voir la réception. Pour le moment on est plutôt content, mais voilà, c'est tout frais. Donc on a plein d'idées en tête, et clairement l'une d'entre elles c'est de développer les voix, et de sans doute de faire des mini suppléments, alors reliés ou pas, sur les différentes voies, et d'approfondir vraiment le rapport à la magie de chacune d'entre elles, leur background, leur contexte, les mondes qui leur sont propres, etc., etc.
Et vos futurs projets à vous ?
Alors moi par ailleurs je suis éditeur de jeux et auteur de jeux et de jeux de société aussi. Et en fait Logo c'est une coédition entre Les Douze Singes et Argeeks Games, qui est ma maison d'édition de jeux. Alors on fait des jeux qui n'ont rien à voir avec les jeux de rôle, on fait surtout des jeux d'enquête, très narratifs pour le coup. Alors ce serait le point commun avec les jeux de rôle, mais plutôt des jeux type escape game, mais qu'on peut jouer chez soi. Et puis d'autres types de jeux de société plus classiques. Donc pas mal de projets dans ces domaines là
Et pour finir, si tu devais convaincre quelqu'un d'acheter Logos plutôt qu'un autre jeu ?
Bah en fait c'est Logos, c'est vraiment je dirais que c'est un ovni qui mérite en soi d'être découvert, parce qu'il a un côté très original dans son approche du langage, en fait, de vraiment de mettre le langage au cœur. Alors évidemment tout jeu de rôle est d'abord un jeu sur le langage, mais là en fait on en a fait un outil mécanique qui sert la magie, et puis sa flexibilité, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil très ouvert, quel que soit le public. On l'a fait tester à des jeunes joueurs, à des néophytes, aussi bien qu'à des hardcore gamers. Ça peut plaire à tout le monde, vraiment. C'est un jeu qui s'adresse à tout le monde et qui est très ouvert dans les ambiances aussi de jeu. Donc voilà, je pense une découverte d'une mécanique originale, et puis d'un outil de jeu aussi qui est flexible et ouvert.
Super, ça me va, merci.
Merci à toi.
C'est bon ?
Ouais, c'est parti.
Alors, vous êtes divisé.
Hop là, c'était un petit peu vite. Je remercie Mathias Daval pour cette interview donnée à Octogone 2021. Un jeu avec beaucoup de possibilités, hein, un jeu récent qui vient de sortir effectivement, qui se glisse entre les méandres des autres jeux pour pouvoir proposer un système de magie là où parfois il n'y en a pas. J'avoue que moi j'aime bien ce genre de méta-jeux, des jeux qui ont leur univers propre mais qui peuvent aussi s'adapter et se déployer dans d'autres univers, ce qui permet d'avoir des choses complètement dingues. Donc un univers retrouvable sur son propre site, hein, magiverse.net, mais également en achat chez Les Douze Singes et dans n'importe quelle boutique de jeux de rôle, hein, où vous pouvez procurer du jeu de rôle, il n'y a pas de souci. Je vous invite vraiment à prendre la campagne également, puisque ça permet de s'imprégner vraiment de cet univers si particulier et si plein de possibilités. Il y a un générateur de scénarios sur leur site. Tiens, je découvre ça. On peut générer. Oh, c'est génial. Ça offre quelques mots qui permettent de créer des scénarios, ce qui est assez cool. Je vous propose de faire une petite pause musicale pendant qu'on chauffe le monde et prépare le scénarium, ou l'inverse, je sais plus vraiment. Je vais vous faire découvrir un morceau musical. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est un artiste américain qui s'appelle Joe Satriani, qui avait fait une chanson qui s'appelle Surfing with the Alien. Du coup, ouais, j'ai toujours trouvé une chanson avec Alien là, pour ces trois parties. Je pense que ça va être dur pour la suite. Enfin bref, je vous laisse découvrir Joe Satriani, Surfing with the Alien. On se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Joe Satriani sur le 101.5 de Radio G avec Surfing with the Alien, un album qui a eu la chance d'avoir une couverture dessinée par le grand Stan Lee, une couverture qui représentait bien entendu Norrin Dar, alias le surfeur d'argent pour les fans de Marvel. Je vais vous laisser en compagnie des voix que nous avions laissé en fâcheuse posture, une posture où il y avait eu un petit peu du grabuge. Il s'était écrasé sur une planète hostile et froide et avait commencé à essayer de pénétrer dans la carlingue. Je vous retrouve juste après.
C'est bon ?
Ouais, c'est parti.
Alors, vous êtes divisé en deux groupes. Là, vous vous apprêtez à essayer de retrouver la boîte noire. Vous savez qu'elle est située normalement juste derrière le cockpit, dans une zone qui est sécurisée, qui contient aussi les grandes informations de maman.
D'accord, c'est l'ordinateur central en fait.
C'est ça.
Bah écoutez, est-ce qu'on est loin ?
Non, vous n'êtes pas très loin. En fait, il y a une pièce à passer. Imaginez le vaisseau comme un triangle posé sur un carré. Mm-hmm. Le triangle étant la zone de pilotage, eh ben c'est situé juste à la jonction des deux. Donc, d'accord, c'est pas une pièce en tant que telle, c'est vraiment une zone qui est maintenue dans le mur, d'accord, avec des placards d'accès, on va dire.
Bon, ben, de toute façon, techniquement, le vaisseau, si je me trompe pas, je le connais plutôt bien, puisque j'arrive pas depuis longtemps, donc je sais où chercher, donc... Doit bien y avoir une trappe ou quelque chose, ou est-ce que je dois découper du...
Non, il y a des trappes d'accès, ouais. Alors c'est sécurisé, il faut des codes d'accès.
Moi j'en ai.
Mais tu en as, tout à fait.
Voilà, écoutez, je vais essayer de nous conduire à peu près au bon endroit. Si jamais c'est difficile d'y accéder, on va découper des obstacles.
Oui.
Et s'il y a des portes qui nécessitent des autorisations, Monsieur Burke, je vais certainement avoir besoin de vous.
J'en aurai la chance.
Alors, il n'y a pas beaucoup de difficultés d'accès. La principale difficulté vient du fait que le vaisseau étant incliné, la progression elle est plutôt difficile, puisque ça a tendance à vous incliner vers le bas. Y a un moment où c'est un peu plus compliqué et il vous faut escalader quelques fauteuils et quelques armoires pour pouvoir passer le sas qui est comme ça et vous êtes comme ça.
D'accord.
Donc ça devient un peu plus, comme ça. Je montre avec les mains, mais radiophoniquement c'est nul.
Disons que c'est à l'horizon, enfin à la verticale, et que nous on est à l'horizontale. Quoi.
C'est ça. Mais vous arrivez à passer dans ces couloirs. L'accès est pas très compliqué. Vous êtes dans une zone qui est sombre. Il y a quand même un petit peu de luminosité.
D'accord.
Et ça peut te demander un jet comme tech.
D'accord.
Quand même.
Allons-y gaiement. Alors c'est bon, le jet est largement réussi.
Largement réussi. Tu ouvres la grande zone en fait, une espèce de grande baie informatique, et du coup tu as, tu sais où sont stockés les disques qui permettent de récupérer les données de navigation et éventuellement de récupérer les données de maman pour la transférer d'un dossier à l'autre.
D'accord. Je vais quand même regarder autour, c'est pour savoir si j'ai un sac ou quelque chose pour mettre dedans. Monsieur Burke, est-ce que vous avez quelque chose pour stocker les disques ? On va avoir pas mal de choses à transporter.
J'aurais bien trouvé un truc. Je prends un sac qu'on a dû prendre.
Oui, vous avez des bagages. Vous avez un grand sac qui est une sorte de sac à dos multifonction. D'accord. Ça risque de dépasser un petit peu, puisque en fait, autant la boîte, que ce soit la boîte noire ou maman, ça fait à peu près la taille d'un grand rack informatique.
D'accord.
Une grande valise pour visualiser.
Sachant qu'en plus tout est un peu à la verticale, donc ce que je vais faire, c'est que je vais grimper un peu si ça vous va. Je vais me mettre un peu en équilibre pour essayer de retirer les disques un par un. Je vais vous les passer pour si vous le voulez bien, monsieur. Et ensuite, à la fin, on va prendre le noyau central de maman et on va l'emmener aussi.
Et oui, bien sûr, la chance, je vous fais confiance.
Bien, alors, tu as tout un protocole pour pouvoir arriver à faire ça, qui est un petit peu complexe, parce que tu peux pas juste tout retirer et tout reprendre. Donc, ça te prend un petit peu de temps, ça te prend entre 20 et 30 minutes. Ça reste quand même assez exigeant, parce que tu es obligé de couper une zone, attendre qu'elle soit désactivée, couper une autre zone, attendre qu'elle soit désactivée.
Toutes les sécurités
au fur et à mesure.
Bah, je vais faire ça.
Si tu arraches tout, en fait, tu as une chance sur deux qu'il n'y ait plus de données sur tes cartes.
Je vais faire ça tranquillement. Par contre, je vais quand même un peu prendre mon temps pour éviter de casser parce que déjà.
Il faut que les informations ne soient pas corrompues, c'est important.
En effet. Pour l'instant.
Pas plus qu'elles ne sont déjà, en tout cas.
Pour l'instant, j'essaie de voir si on prend quand même un peu de nouvelles des autres pour savoir s'ils sont.
Ouais, moi, j'essaye au Comlink de voir s'il y a des choses qui captent autour. Peut-être je demande des infos à maman sur s'il y a d'autres personnes ou d'autres choses qui se baladent dans le vaisseau actuellement. Du côté où on est.
Du côté où vous êtes, elle t'indique qu'il n'y a rien de plus. Elle reconfirme la zone de chaleur au niveau du poste de pilotage.
On est à côté du coup.
Ouais, vous êtes juste derrière en fait.
Je vais aller voir pendant que.
Ok.
Pendant que la chance s'occupe de. Ça vous va la chance?
Écoutez.
Que j'aille regarder ça.
Oui, allez-y. Je vais me débrouiller, il n'y a pas de souci.
J'arrive dans un instant.
D'accord.
C'est vraiment juste à côté en fait. Donc tu t'essaies de passer par en bas, tu te rends compte que la porte elle est complètement verrouillée, qu'il n'y a pas moyen de l'ouvrir.
Donc la chance, est-ce que je peux vous prendre votre dessoudeur là?
Le découpeur à plasma?
Ouais.
Vous savez vous en servir?
Je vais essayer.
Bon je lui. J'ai un petit sourire en coin et je lui lance le découpeur à plasma parce qu'on doit quand même avoir quelques mètres là entre lui et moi donc. Tenez!
Ça glisse, t'arrives à le rattraper sans trop de difficultés. Et puis tu commences à essayer de t'atteler à ouvrir la porte. Alors,
le bois avec la flamme, pas vers vous.
C'est noté.
C'est chaud.
Tu fais un jet de Comtech?
Oui. Alors, pas de réussite. Et énorme, pas de réussite. Et en plus, mon jet de stress me fait échouer.
C'est un truc que t'as pas l'habitude d'utiliser. Tu commences à essayer de chauffer le truc, ça te crame moitié les doigts parce que t'as dû poser la main là pour essayer d'ouvrir.
En fait, attention, c'est une flamme à 2 millions de degrés.
Et tu l'as fait tomber.
Il n'y a plus de flamme à 2 millions de degrés.
Comment ça?
Je suis désolé, je l'ai perdu.
Bon, je vais juste recaler un petit peu les pièces que j'ai en enlevé. Je vais commencer à descendre un peu inquiet. Vous avez perdu un doigt, ça va?
Non, ça va. Moi, ça va. Le truc, je ne sais pas.
Je vais ramasser le découpeur.
L'important, c'est d'essayer d'ouvrir cette porte.
Ah, il est coincé dans un bout de chemin. C'est difficile d'accès pour le récupérer. Ça te prend encore quelques minutes.
Je vais démonter des trucs. De toute façon, ce vaisseau, il est en pièces. De toute façon, je peux bien arracher un siège ou deux.
Toi, tu peux te faufiler partout, en plus.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors là, c'est pas question de pouvoir se faufiler, c'est que la porte, quand t'as essayé de découper un petit peu, tu trouvais que déjà la résistance était assez différente.
D'accord.
Et c'est juste que derrière, t'as que de la terre.
De
la terre.
Oui,
c'est embêtant.
Je crois que j'ai trouvé le sol.
Mais alors d'où vient cette chose de chaleur? C'est incompréhensible.
Attendez.
En fait, le poste de pilotage, c'est quand même assez grand. C'est juste que cet accès-là.
C'est embêtant. Il faut trouver un autre accès alors.
Bah, par autre chose. Du coup, il faut que tu grimpes.
Merci de m'avoir donné cette info avant, maman.
Je t'ai demandé de quel côté tu passais.
Si ça vous va, monsieur, je vais me permettre de garder le découpeur et je vais retourner à l'ordinateur pour continuer le démontage.
Oui. Allez retourner à l'ordinateur. Cette mission-là est importante. Moi, je vais passer par en haut.
Tu me fais un jet d'agilité.
J'avoue.
De mobilité, par contre.
J'avoue qu'à l'heure, je commence à rigoler un peu quand même.
Surtout qu'il est en costard,
il a mis une combinaison par-dessus.
C'est réussi.
Ah oui, on a les combinaisons sans les casques, on est d'accord. Juste la combi pour se tenir au chaud.
Ouais. C'est une espèce de casque léger en toile, en fait.
D'accord, oui, voilà.
C'est réussi.
T'as réussi? Ok. T'arrives à grimper, alors effectivement, c'est chiant parce que c'est très pentu, il y a très peu de prises.
Je fais des doigts, mais dans son dos, c'est.
Tu te fais aider un petit peu parce que sinon, t'aurais eu beaucoup de mal. Ouais. Et quand t'arrives à l'angle, t'arrives à te positionner et en face, t'as un sas. Tu ouvres le sas et là tu vois une scène qui est un petit peu traumatisante.
Merde.
Un compte en banque vide.
À l'intérieur du cockpit, tu vois. Il faut toujours imaginer que tout est penché.
Ouais.
Il y a une grosse partie de terre qui est rentrée à l'intérieur du cockpit. Il y a le pilote en second qui. T'as pas de doute, il est décédé. Hein. Il a une espèce de grande partie métallique qui lui traverse le torse. Un truc qui est aussi assez impressionnant, c'est que c'est une espèce de grand morceau métallique qui lui traverse le torse. T'as un bras d'épinglé dessus.
Ah.
Et à côté, tu as le pilote qui a pas l'air d'aller bien. Il y a du sang partout. Il lui manque son bras. Et il a l'air d'être coincé. Et il est en train de. Il a fait une espèce de système. Il appuie sur un petit bouton. Et au moment où tu ouvres la porte, il était en train d'appuyer sur ce petit bouton-là.
Pilote.
Ouais.
Vous êtes vivant, incroyable.
Ouais.
Je suis au comique. Je fais la chance. J'ai trouvé la chose de chaleur. Le pilote est vivant avec un bras en moins.
Ah, j'arrive tout de suite.
Et je me précipite pour essayer. De l'aider, d'arrêter l'hémorragie, de faire un truc.
Ok, tu me fais un jet de soins médicaux, si tu as.
Oui.
J'ai de quoi cautériser.
3, 4, 5, 6. J'ai pas pris de jet de stress en plus, de points de stress en plus.
Non, pas en plus.
Ah putain, je lance la boîte de dés, il n'y a pas de 6. Putain, il n'y a aucun 6. J'ai pas réussi, j'ai pas raté, mais j'ai pas réussi.
Tu commences à essayer de vouloir le soigner, tu sais te faire un petit peu. De manière
avec ce jet,
empirique avec ce que t'as et
tu prends le bras, tu le remets dessus,
il s'évanouit.
Prah, merde. Bon, et est-ce que je peux retenter quelque chose, comme il arrive, prendre la flamme à 2 millions de degrés pour cautériser la plaie immédiatement?
Non, je fais une mouboudeuse, hein, ceux qui ne voyaient pas.
Mais... Non, mais j'ai, si vous voulez, j'ai une méthode. Et là, je vais, si j'arrive, en tout cas, est-ce que j'arrive
Alors, la problématique, c'est qu'à chaque fois que tu interromps, en fait, ton process, tu es obligé de le reprendre depuis un certain point.
Ouais, mais je vais quand même venir. S'il me dit, selon le ton de sa voix, le pilote n'a pas l'air bien, ça reste un pote à moi.
Ouais, le pilote a l'air.
Je ne sais même pas comment il s'appelle, le pilote, c'est un pote à moi.
Il vient de tomber inconscient, il a perdu beaucoup de sang.
Wilkins.
Wilkins.
C'était lui le SOS depuis le début.
D'accord. Trouve un bout de métal plat.
Je prends un bout de métal plat. J'ai compris la méthode, mais je prends un bout de métal plat.
Il est aussi le niveau du bras, donc il y a le sang qui continue à couler. Je vais chauffer le bout de métal plat avec la flamme du découpeur à plasma, puis quand c'est commence à être rougeoyant, je vous laisse faire.
Ça a l'air d'avoir été arraché en fait au niveau de la jointure du coude.
D'accord, donc il va falloir le faire à plusieurs reprises, il va falloir brûler toute la zone. Heureusement qu'il est inconscient, vraiment heureusement.
Il risque de se réveiller.
Et j'essaie d'appeler Sally pendant ce temps-là.
Ok, il risque de se réveiller.
Parce que oui, la flamme à 2 millions de degrés. En fait,
ah oui, non, sur le truc directement, ça va.
Encore
2 millions. Non, mais je fais le gars qui n'est pas du tout comme ça. J'ai quand même 6 points au milieu de ça.
Sally, tu reçois un message sur ton comlink.
Sally ?
Oui ?
Sally, c'est la chance. Venez au poste de pilotage, j'ai retrouvé Wilkins.
Docteur River, on a besoin de vous immédiatement.
Le pilote.
Très bien, au poste de pilotage ?
Il lui manque un bras et on essaie de stopper l'hémorragie.
Captain Kaiser, c'était votre pilote, le SOS, depuis le début.
Je sais, nous avons réussi à le contacter aussi.
Eh bien, ça tombe bien, il vient de tomber dans les pommes. Dépêchez-vous de venir si vous voulez pas qu'il clame.
Donc
Nous sommes sans route.
Bon. Donc pendant ce temps, je vais continuer à chauffer le bout de métal, puis je vous laisse travailler, Burke.
Wilkinson, c'est ça ?
Wilkins. Et en fait, on est en train de chauffer un bout de métal parce qu'il a un bras arraché au niveau du coude, et on chauffe le bout de métal avec mon découpeur à plasma, puis on pose sur la plaie.
Le pilote en second est mort, lui, par contre. Empalé par ce bout de métal qui a désossé notre pilote.
J'essaie de pas y penser.
Je dois vous informer que la réserve d'oxygène de l'infirmerie est entourée de flammes, donc nous n'avons pas énormément de temps.
J'adore ce tour.
Très bien.
Mesdames et messieurs, dans quelques secondes.
Eh bien, écoutez, la chance, vous retournez immédiatement récupérer les données de maman. Je m'occupe de Wilkins le temps que le docteur River arrive.
Je te laisse le découpeur à plasma et je regrimpe les sièges et je recommence à remonter l'ordinateur.
Il faut absolument agir avant que.
Et là, je trace. Par contre, les sécurités, tant pis, à un moment.
Ok.
C'est trop du travail sale.
Ok. Sally et. C'est Hans, hein, c'est ça ?
Yeah.
Vous commencez Kaiser. À Kaiser. Oui, c'était ce nom de famille, Kaiser.
Oui.
Capitaine. On est dans Alien, on s'appelle pas le nom de famille.
Oui, Kaiser et Rivers du coup. Vous vous approchez, vous rebroussez chemin et vous approchez du poste de pilotage. La difficulté de trajet est toujours la même. Le vaisseau étant incliné, ça reste toujours un petit peu compliqué. Vous progressez, ça vous prend une dizaine de minutes pour les rejoindre. J'ai perdu le nom de...
Moi, c'est Burke.
Burke. Vous vous approchez en fait de Wilkins avec cette barre chauffée et vous lui appliquez tant bien que mal en espérant avoir cautérisé et alors, c'est séché un petit peu, c'est
si ça sent le boudin,
il n'est pas
sec.
Non plus placé de manière adéquate, donc
non
je fais ce que je peux avec
je pense que tu y arrives pas trop mal, tu te débrouilles assez bien et tu commences à essayer de l'extraire en fait du cockpit et tu te rends compte qu'il a la jambe qui est coincée en fait sous le bloc.
Mais même phare de LED pour ça.
Non, je t'ai laissé un découpeur à plasma.
Ah oui, non, je pensais soulever le truc moi, mais.
Ouais. Ah d'accord, pardon.
C'est-à-dire que je vais pas lui découper la jambe là maintenant.
Aussi, il y a besoin, ça marche très bien.
Non.
2 millions de degrés sur le.
C'est vrai que.
Passe.
Non, mais j'ai une barre chauffée, je peux. Ça cautériserait immédiatement.
Si directement le découpeur, ça passait tout seul. Par contre, c'est déjà que ça sent pas bon.
Voilà.
Mais je te le gérerai, moi je vais retourner à mon ordinateur.
Ah bah toi, t'es déjà l'ordinateur.
Ça risque de sentir le cochon cramé un petit peu.
Bon, en tout cas, j'essaye de voir si les signes vitaux s'effondrent complètement ou pas. Et si oui, j'essaye de le stabiliser un peu plus.
Fais-moi un jet de soins médicaux.
Ah, quand même. Hop. Et non, évidemment. J'avais 2-6.
Pour prendre le pouls, il faut pas mettre le doigt dans l'œil.
C'est assez éprouvant en fait. T'as cautérisé, ça a cramé un petit peu, ça sent mauvais. Tu vomis
sur lui.
Juste au-dessus, mais tu vomis sur le copilote du coup.
Alors, c'est une émission, grave, c'est une émission tout public. On va éviter les trucs c'est trop gore.
Bah, il y aura un disclaimer avant cette partie-là.
Ah, attention, il y a des gens qui vomissent.
Bah, mais laissez pas les enfants devant, quoi.
Ah d'accord.
Vous êtes rejoint par Rivers et Kaiser.
Et j'assiste à ça.
Tu l'as senti.
Vous êtes médecin.
Avant de le voir. Tu l'as senti avant de le voir.
Oui, t'es tout bip.
Quand vous me croisez, en fait, moi je suis dans la salle d'avant en train de démonter la moitié du mur, en train de démonter les disques durs et le noyau de maman.
Bah, je pense que je vais m'arrêter avec toi pour.
Bah, en fait, j'ai besoin d'elle parce que si on a que quelques minutes, sachant qu'il va falloir. Si je le fais bien, normalement, c'est 20-30 minutes au total pour démonter tout.
Honnêtement, je pense à mon assureur qui va me réclamer la boîte noire pour.
D'ailleurs, si vous pouvez. Non, est-ce que vous pouvez aller demander à Burke la découpeuse à place pas? Ça me permet d'accélérer un peu les choses.
Je sais pas si on a le temps.
Ah bah justement, ça va nous faire gagner du temps.
Découpeuse à plasma, vous avez juste corrompu les données, c'est tout ce qui va se passer.
Vous entendez une première... une petite détonation.
Oh là là, on n'a pas le temps. River, aidez-nous à sauver notre ami, là.
Par quoi je peux commencer? Reculez-vous déjà, vous me gênez un peu.
Ah, il arrive, désolé.
Dit-il avec du vomi plein la cravate.
Je vais me l'étaler sur vous.
Alors, effectivement, il recule parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et en plus, c'est penché, je le répète. C'est une vraie boucherie, en fait. Donc, je redécris la scène pour les deux personnes qui ne l'ont pas vue. En fait, vous avez le copilote qui est empalé avec un des éléments du châssis. Empalé juste au-dessus, façon brochette, il y a le bras de Wilkins qui a été sectionné au niveau du coude. Wilkins, c'est ce que te transmet Burke, a visiblement le pied coincé sous un des éléments du cockpit.
D'accord.
Et il a cautérisé tant bien que mal en fait les éléments qui dépassaient du bras.
D'accord.
Donc c'est plutôt peu ragoûtant.
Ouais.
En plus, il y a un des pilotes qui a dû vomir dans son, ce qui est une espèce de flaque de vomi un peu plus bas.
D'accord.
Donc c'est pas évident.
Non, c'est pas joli. Et puis surtout, je sais pas qui l'a soigné, mais qui a essayé de le stabiliser avant. Mais bon, ça a été. Ça se voit que c'est fait dans l'urgence et dans des situations compliquées parce que c'est.
Vous auriez fait mieux vous
pour stopper une hémorragie d'un bras arraché. C'est vrai que la chaleur, ça marche bien. Ça sent un peu le boudin, mais.
Tout petit peu.
Si ça a permis de le sauver, en tout cas.
Mais c'est Burke qui a fait tout ça. Je suis pour rien.
Pas le vomi.
Et vous savez que le temps presse.
C'est fou.
Oui.
Qu'est-ce que tu fais?
Son pied est coincé et faut l'évacuer. Donc faut décoincer son pied pour pouvoir évacuer avant que tout n'explose.
Pardon. Ok.
Et de préférence qu'il reparte sur ses deux jambes. Donc l'idée d'une amputation à chaud,
c'est
pas drôle du tout.
J'ai que l'idée.
Oui, bah on va pas le faire.
Ouais, enfin, c'est la chance qui a eu cette idée. Ouais.
Alors tu regardes un petit peu comment c'est fichu. Il y a deux possibilités. Soit mécaniquement vous pouvez faire levier pour lever la zone qui bloque la cheville. La deuxième, c'est faut lui déboîter la cheville.
Allez, on peut faire levier.
On va faire levier avec toutes les tous les débris de métal qu'il y a partout. Il y a forcément une barre de métal qui peut faire levier. Donc oui, l'option de faire levier pour lui décoincer le pied et que le pied reste entier. On fait ça.
Ok.
Je rentre dans la salle à ce moment-là pour venir chercher la lance le thermique.
Le découpeur à plasma.
Voilà, ouais. Le découpeur à plasma.
Ok.
Tenez.
Donc vous débarquez dans la pièce. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire avec la lance à plasma?
Ben, je vais la ramener pour qu'on puisse libérer le.
Je vais outrepasser certaines mesures de sécurité pour accélérer un peu les choses.
Ok. Ok, je te laisse. Du coup, là, il faut faire un vrai jet de Comtech et je vais demander plus d'une réussite parce que sinon.
3 réussites.
3 réussites. Effectivement, tu fais dans l'urgence, tu essaies d'innover, d'inventer, mais de garder des choses un petit peu sécurisées. Et du coup, tu arrives à récupérer les éléments. Tu as fait plus vite. Tu sais que ça t'aurait pris 10-15 minutes de plus si tu l'avais fait dans les procédures.
D'accord.
Tu es à peu près certain d'avoir bien conservé en fait les données et que tu vas rien avoir de corrompu.
Voilà, les pas de vis, ils sont tous morts, hein, je vous préviens.
C'est ça. Ça demandera de la réparation.
C'est pas grave.
Qu'est-ce que tu fais
avec ça? Je pense que dans l'immédiat, c'est pas le plus important.
Ben non, mais c'était justement pour l'aider à.
Ah oui. Ah oui, donc du coup, ça marche.
Voilà, donc je récupère la boîte noire.
Ok.
Et je dis, allez les aider, je crois qu'ils essayent de libérer la jambe.
En fait, vu que j'en ai pour quelques minutes, ça te dirait pas d'aller les aider pendant que je finis à tout découper.
Mais il file un coup de main, donc.
D'accord.
Non mais nous on s'occupe d'essayer de libérer
ouais.
Deux corps,
un jet de force,
oui, c'est ça,
un petit jet de force quand même.
S'il y a besoin, j'ai une découpeuse.
Donc je les aide.
3 6.
Non, t'as filé un
3 D 3 6.
Là c'est quand même le perfect.
Joli. Intervention démoniaque.
Je réussis mon jet de force aussi de mon côté.
Okay. Donc on a 4-6 en tout.
Vous faites un jet bien. En commun et vous arrivez effectivement à faire levier sans lui bousiller la cheville. Et vous arrivez à l'extraire. Je considère que dans la même action, vous le sortez du poste de pilotage et vous arrivez de manière plus efficace jusqu'à côté de. J'ai perdu le nom.
La chance.
Juste à côté, oui, c'est facile à retenir. Juste à côté de la chance qui extrait à peu près au même moment le rack de données.
Oui, parce qu'au total, entre les disques durs et le noyau de maman, on en a pour deux gros sacs à dos blindés.
D'accord.
Ça va être sympa à trimballer.
Tu ne pouvais pas prendre tout le rack directement
Là, il a fallu que j'amène le buggy dans le couloir et c'était le bordel.
Du coup, en évacuant Wilkins, moi je. Donc on est tous les deux en train de l'aider à marcher, je pense.
Oui.
Et puis en même temps, on dit allez, on se dépêche, ça commence déjà à exploser là. Vous en avez tout.
Une deuxième onde de choc.
Là, je m'assure que vous partiez tous et je vais partir en dernier. Allez-y, évacuez, dépêchez-vous.
Okay. Vous utilisez les filins pour pouvoir arriver à remonter. Ouais. Là, vous êtes dans une zone un peu plus facile. Vous sautez sur le sol. Oui, c'est toujours une certaine hauteur.
Là, je vais vous laisser le volant, capitaine.
Et alors, vous basculez les affaires. Wilkins, vous essayez de le faire descendre avec le filin pour qu'il souffre pas trop.
Le remonter, tu veux dire?
Le remonter, il faut le remonter et puis après le redescendre.
Ouais, oui, c'est vrai.
Mais... Oui.
Sinon, tu le jettes.
Non. Mais
oui, okay. Bah, ça marche aussi.
Oui. C'est une façon de faire.
Il est inconscient de toute façon.
Oui, mais ça sert à rien de le blesser plus qu'il ne l'est déjà.
C'est ça, peut-être l'épargner un petit peu.
Il avait un trauma crânien et on l'avait pas remarqué.
et puis vous chargez à toute vitesse le buggy.
Okay. On demande à Jones de nous aider aussi.
Oui,
il va porter les objets lourds et on va se manier.
On se dépêche. Et puis tu vas me faire un petit jet de pilotage.
Non, cette fois je laisse les commandes à celui qui s'est commandé, celui qui s'est piloté cette fois. Hop. Comme ça, si on se plante, c'est de sa faute. Ah. Non, parce qu'en fait, je sais pas du tout piloter. Alors, comment dire,
une réussite.
Une réussite.
Ah oui, mais un.
Mais voilà.
Un
stress. Là, c'est
stress, c'est mort.
Oups, bon bah c'était bien cette partie.
Ok.
Boum.
Vous commencez à vous éloigner en fait.
Je cale.
T'entends une explosion derrière, t'entends une deuxième explosion.
C'est le moteur.
Et puis à un moment, tu t'as tourné la tête pour voir ce qui se passait parce que ça, c'est ton vaisseau quand même qui est en train de péter. Et t'as pas fait gaffe et t'as une petite anxiosité qui t'a légèrement déstabilisé. Et au moment où le vaisseau explose en fait. Déstabilisé, plus le souffle, vous retrouvez couché.
Dans le buggy.
T'as réussi à choper le seul nid de poule à 300 km à la ronde.
Il y avait des débris par
terre. Non, il y a plein de nids de poule. Hein.
Non, enfin, on les a creusés. Mais...
voilà, il n'y en avait pas avant.
Mais il y a des bosses et des débris aussi.
Bref. En tout cas,
on s'éclate au sol. Quoi.
C'est ça. Le buggy, il a dû faire un vol d'une quinzaine de mètres.
Ah, quand même.
Ah ouais.
Avant de retomber sur le côté.
Et nous, on vole dans toutes les directions.
Ah, vous êtes sanglé ?
Ah oui, zut.
Dans le buggy ?
Oui, heureusement.
Non. Ouais, mais du coup, on vole aussi sur 15
mètres. Vous l'avez attaché,
au moins, on vole pas sur 30. Ouais.
C'est bon, il a pas bougé.
Oui, sauf que là, du coup, on est harnaché, mais sur le flanc, c'est ça ?
C'est ça.
J'ai comme l'impression que ce serait bien qu'on ait un sol droit, un de ces quatre, quand même, parce que là, ça commence à être compliqué.
Ça aurait pu être pire. On aurait pu faire un tonneau.
Ouais, sur les arceaux, ça aurait été intéressant.
Tu avais une question, du coup, qu'on n'a pas entendu parce que tout le monde parlait en même temps.
Pardon.
Ouais, mais je sais plus.
Sur Wilkins, ça.
Wilkins s'est pas décroché, lui.
Non. Il a toujours l'épaule, hein. C'est le coude qui disparaît.
Par contre, du coup, on est tous sur le côté et Wilkins aussi, quoi.
C'est ça.
Ah bah,
je vous propose de vous arrêter là pour l'instant.
Par contre, il manquait un truc, c'est. Il n'y a pas de alien.
Et oui. Laissons là les voix pour l'instant dans une situation fâcheuse à un moment assez critique. Une explosion de vaisseau, un véhicule qui se retourne, une situation que vous avez sans doute déjà vue. Mais c'est exactement ça qu'on veut jouer dans le jeu Alien. Alors j'espère que ce scénario vous a plu. Je suis désolé que les comlinks de mes petits camarades aient été un petit peu trop saturés, mais bon, vous savez, dans l'espace, la réception n'est pas toujours bonne. On va dire que c'était pour mettre un petit peu d'ambiance. Promis, je ferai plus attention sur les prochains enregistrements, mais effectivement, autant une interview ou une critique comme celle de Romain, on peut la refaire facilement, autant une émission complète, ça devient un petit peu plus compliqué. Comme je vous le disais au début de l'émission, on va faire un petit hiatus de 2 semaines, histoire d'enregistrer de nouvelles choses avec de nouvelles voix, de nouvelles parties, de continuer les choses qui ont déjà été entamées, la suite d'Alien, la suite de Cthulhu. On a envisagé de faire une partie de Shadowrun avec un scénario qui, je vous avoue, me plaît beaucoup. J'espère que je vais arriver à le retranscrire. Alors, il y aura peut-être 4 ou 8 émissions sur le Shadowrun en fonction de la façon dont on va pouvoir le jouer. Si vous avez envie de rejoindre les voies du scénario, faut pas hésiter, hein. Vous nous contactez directement sur l'adresse de la case de Seb, lacaseseb.radio-g@gmail.com. Et puis autrement, il y a un chat, si j'ai bien compris, qui a démarré sur le site de Radio G. Alors je sais pas, j'ai pas encore accès, mais ça peut être aussi l'occasion de pouvoir échanger ensemble sur vos envies. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook des Voix du Scénarium, également sur le compte Instagram des Voix du Scénarium, où on peut échanger effectivement sur les jeux que vous souhaiteriez peut-être nous voir proposer. Si vous êtes créateur de jeux, n'hésitez pas non plus à venir proposer une partie des Voix du Scénarium. Ce sera avec un grand plaisir, ou même simplement une interview. Au programme sur les prochaines sessions, également d'autres interviews
de créateurs de jeux de rôle et d'autres parties, certainement d'autres petits points sur la sécurité émotionnelle dans jeux de rôle par Nadège. Jean-Hugues, si tu nous entends, on a toujours envie d'avoir un petit peu d'historico de ta part, mais bon, bah, tant pis. Hein. Et puis voilà, si vous voulez que, par exemple, Marx au trio anime une partie de Trudvang, ben, je suis vraiment preneur. Je pense que je ne suis pas le seul. Marc, si tu nous entends, je sais que je ne suis pas persuadé que tu écoutes l'émission en direct, mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié ces différents épisodes. Je sais, j'insiste beaucoup sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé plus ou moins tel ou tel épisode, ou si vous avez aimé la mise en son de certains épisodes un peu plus que d'autres. C'est pas forcément toujours évident en fait de trouver les ambiances sonores adéquates ou d'ajouter des petits bruitages. Parfois ça peut casser un peu l'ambiance, parfois ça va la renforcer, et j'ai encore besoin de beaucoup doser là-dessus. Donc effectivement, je suis preneur de tout ce que vous pouvez me donner comme retour sur ces voies du scénarium. Allez, j'espère que cette émission vous a plu, et je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans pas 15 jours, mais dans 3 semaines du coup, pour arpenter et entendre à nouveau les voies du scénarium.
the same.